Radio Kapi.
Reprise des activités à Komanda en Ituri après la dernière attaque des ADF à Makayanga, mais les prix de plusieurs produits ont augmenté parce que devenus rares. L'UNICEF annonce la construction de 200 écoles en RDC à partir de cette année scolaire. Ces projets rentrent dans le cadre du programme « L'éducation ne peut pas attendre » et le partenariat pour l'éducation. Apollinaire Nsoka Ngimbi, coordonnateur de la société civile de Boma, est notre invité. Il propose quelques pistes de solutions face au ralentissement des activités au port de Boma qui a des conséquences sur le social des habitants de cette ville. Bonjour à tous, commençons en Ituri. Les activités économiques reprennent timidement depuis mercredi au centre commercial de Komanda après la dernière attaque de Makayanga qui a entraîné le déplacement de presque toute la population. Cependant, la Fédération locale des entreprises du Congo FEC indique que certaines marchandises sont devenues rares car la plupart des commerçants ont évacué leurs biens dans des localités sécurisées. Conséquence, les prix de plusieurs produits ont doublé, voire triplé sur les marchés. Les services des messageries financières ne sont pas également opérationnelles. Isaac Rémoyopé.
Au moins 20% des opérateurs économiques ont rouvert leurs boutiques au centre commercial de Komanda dans les territoires du Rumu, déclare le président de la Fédération locale des entreprises du Congo FEC. Cependant, certaines marchandises sont rares dans les milliers, notamment l'huile, les carburants, les cafés ou encore les boissons gazeuses dont les prix ont galopé sur les marchés. Il précise qu'un litre de carburant se vend à 4000 francs congolais chez les revendeurs. Les transports à commencer des motos de Bunia Komanda se négocient aussi actuellement 50 000, voire 60 000 francs congolais au lieu de 20 000 francs congolais, affirmé des sources locales. Les services de messagerie financière M-Pesa et Airtel Money et des coopératives d'épargne sont encore fermés, ce qui ne permet pas la circulation des liquidités dans ces centres commerciaux qui étaient presque vidés de ses habitants. Le président de la FEC, Eric Vuruba, lance un appel aux commerçants qui ont fui au pont Ituri, Mungamba et d'autres villages proches de retourner à Komanda car la sécurité y est assurée par les FARDC. Signalons que le gouverneur a également invité les opérateurs économiques à rentrer à Komanda. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Nord-Kivu, la force conjointe armée congolaise et les éco-gardes de l'ICCN a repris jeudi le contrôle total de la zone de Tchanika. C'est sur la rive sud-ouest du lac Édouard, à cheval entre les territoires de Lubero et celui de Rutshuru. Dans un communiqué officiel à ces sujets, la direction provinciale de l'ICCN indique que cela est le résultat de 8 jours d'opération de traque contre les groupes Mai Mai et qui occupaient cette partie du parc national des Virunga. Bernard Danyangi.
C'est entre le 23 et le 30 septembre que 250 éco-gardes de l'ICCN et les éléments de la force navale des FARDC ont été engagés dans l'opération contre le groupe Mai Mai qui occupait la zone de Tchanika depuis plusieurs mois déjà et où il vivait du braconnage dans le parc, du rançonnement des pêcheurs et aussi de la pêche illicite sur le lac Édouard, indique la direction du parc national de Virunga. D'autres sources à Vichumbi ajoutent que les Mai Mai, dénommés Amanileo, Kolman, Kivuan, Ndarusha, Baguma et Kadima, selon les noms d'emprunt de leurs commandants, imposaient entre autres des taxes parallèles d'au moins 5 dollars américains par semaine par pirogue de pêche sur le lac Édouard. Aucun bilan pour cette opération n'a été révélé, mais selon l'ICCN, après la fuite de toutes ces bandes criminelles, le rétablissement complet de l'état de droit sur ce territoire du parc national de Virunga est maintenant possible. Le comité des pêcheurs du lac Édouard plaide pour la consolidation de cette zone de Tchanika en y installant d'une manière durable des positions des éco-gardes pour empêcher le retour de ces Mai-Mai. Goma, Bernard Dengangi, Radio Kapi.
Toujours au nord Kivu, quelques milliers de personnes déplacées et 3 réfugiés urbains pourraient aussi bénéficier du programme de vaccination contre la COVID-19. Ces résultats du plaidoyer mené par le HCR a été révélé vendredi lors d'un déjeuner de presse à Goma. Pour le coordinateur du programme santé au HCR, le programme élargi pour la vaccination PEV va bientôt relancer la vaccination contre la COVID-19. Bernardine Diambou pour les détails.
Pour les coordinateurs du programme santé au ASR, le programme élargi pour la vaccination PEV va bientôt relancer la vaccination contre la COVID-19. C'est après la réception la semaine dernière d'un lot de 50 000 doses de vaccin Pfizer. Ce cadre du ASR dit qu'un appui est apporté au gouvernement pour permettre à ce que les zones de santé ayant une forte concentration de personnes déplacées soient intégrées dans le programme. Docteur Marcel Lumbala.
Nous allons travailler en collaboration avec le ministère de la Santé parce que c'est une vaccination volontaire. Nous allons les aider à identifier les personnes qui souscrivent volontairement parmi les déplacés et les réfugiés. Et nous allons leur communiquer cela pour qu'ils puissent organiser le nombre de doses et les équipes pour aller vacciner les personnes relevant du mandat du HCR.
Rappelons que c'est près de 1,8 million de personnes qui sont déplacées au Nord Kivu. Les HCR projettent aussi renforcer quelques structures scolaires fréquentées par les enfants des déplacés internes et réfugiés en dispositifs de lavage de mains et de masques. C'est en commençant par la ville de Goma. Goma, Bernardine Diambou, Radio Okapi.
La MONUSCO appelle à la mobilisation générale de tous les acteurs pour le retour d'une paix durable dans les hauts plateaux d'Uvira et Fizi. La paix reste la seule condition pour accueillir les projets d'investissement pour l'encadrement des jeunes après le retrait de la mission onusienne. Le chef de bureau de la MONUSCO Sud Kivu réagit ainsi au message de haine qui continue de circuler et d'appeler les jeunes à la violence. Karna Soro, chef de bureau de la MONUSCO Sud Kivu, est au micro d'Emmanuel Elamegi.
En tant que MONUSCO, nous allons continuer à travailler dans le cadre du plan d'action à la pacification de la zone. Continuer à mobiliser les acteurs constructifs, les acteurs qui souhaitent qu'il y ait la paix et que ces populations puissent vaquer à leurs occupations. Et il convient aussi que tous les acteurs puissent comprendre qu'il n'est de vraie paix que si les populations arrivent à se prendre en charge. Une fois que la MONUSCO va entamer son départ, il faut que les investisseurs puissent venir, il faut qu'il y ait des entreprises qui se créent. Comme vous le savez, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure. Il faut qu'il y ait des personnes prêtes à investir de leurs ressources pour construire ces routes-là. Mais tout ça va demander un environnement propice. Personne ne viendra avec son argent dans un endroit où il sait que, en un seul mot, en une seule phrase, quelqu'un peut mettre les jeunes dans la rue. Et donc, il est temps qu'on regarde dans la perspective du long terme. Nous devons tous travailler avec les autorités, avec les jeunes, avec les femmes, à essayer de construire et structurer cet environnement positif. J'insiste sur le mot positif. Ce qui importe, c'est assurer l'avenir des Congolais qui résident dans cette zone.
Je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, compte construire 200 écoles en RDC à partir de cette année scolaire pour permettre l'accès de plus d'enfants à l'école. Son représentant RDC l'a dit hier vendredi à Kananga à la suite d'une mission de 3 jours au Kasaï central. Selon Edouard Begbeder, ce projet ambitieux de construction rentre dans le cadre du programme « L'éducation ne peut pas attendre » et les partenariats pour l'éducation. Il appelle d'autres partenaires à rejoindre l'UNICEF pour appuyer le secteur de l'éducation en RDC. On l'écoute au micro de François Kadima.
Avec le programme « L'éducation ne peut pas attendre », on va construire jusqu'à 130 écoles au niveau du Tanganyika. Et au niveau du programme du partenariat pour l'éducation, on va construire à peu près 250 salles de classe dans 10 provinces. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté au niveau de l'UNICEF. Ça va être un programme qui va être sur 2 ans pour le programme PME et 3 ans pour le programme « L'éducation ne peut pas attendre ». 200 écoles représentent à peu près 1500 salles de classe, ou un peu plus, mais c'est très peu. Par contre, c'est bien, et il faut que d'autres partenaires nous rejoignent pour ce faire. Donc, je lance aussi un appel, naturellement, au gouvernement et aux partenaires pour supporter l'accès, la qualité et l'éducation des filles au niveau de l'éducation.
L'ONG internationale War Child Canada a clôturé jeudi son projet sur le programme de rattrapage scolaire sur toute l'étendue de la RDC. Il s'agit d'une approche d'enseignement interactif à travers la radio qui a commencé depuis 5 ans. Il a été validé par le ministère national des Affaires sociales pour appuyer plus de 1000 enfants âgés de 8 à 16 ans dans les rattrapages scolaires du niveau 4, équivalent de la 8e de l'enseignement de base, notamment à Kinshasa, à Bukavu et à Uvira. À Uvira au sud Kivu, la La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs centaines d'élèves, des autorités locales et des parents. 5 ans après, le bilan de cette approche est largement positif. On écoute la chef de programme Our Child Canada, Mélanie Bitingini, au micro de Fiston Ngouma.
Our Child Canada a développé cette approche d'enseignement interactif à travers la radio depuis 2016. Le ministère national des Affaires sociales a validé le programme en 2018 avec la mise en place des rattrapages scolaires du niveau 4 de l'enseignement de base. Le projet a appuyé plus de 1000 enfants de 8 à 16 ans par l'enseignement du niveau 1 à 4 de l'enseignement de base. 5 centres sont localisés à Kinshasa, 5 autres au sud Kivu, dont 3 à Uvira. La chef des programmes à World Child Canada, Madame Mélanie Bichingini, explique les résultats atteints à ce jour par cette nouvelle approche.
Avec les rattrapages scolaires, nous combinons des classes dans une année scolaire. Pour le niveau 1, nous mettons ensemble les enfants de première et deuxième primaire. Pour le niveau 2, c'est troisième et quatrième primaire. Pour le niveau 3, cinquième, sixième. Et pour le niveau 4, septième, huitième. En espace de 4 ans, l'enfant termine tous les cycles de l'enseignement de base. Ce sont les enfants qui ont connu un retard par rapport à l'âge et aussi par rapport au programme parce que ce sont des enfants. La majorité était seulement à la maison. Ils avaient abandonné parce que les parents n'avaient pas les moyens pour payer leur scolarité. Alors, nous les avons intégrés encore à l'école à travers ce programme de rattrapage scolaire. Nous avons eu de bons résultats avec cet enseignement à travers la radio parce que dans la classe montante, les enfants ont fait de bons résultats. C'est la première année que les enfants ont présenté les TENAFEP après avoir étudié par la radio. Et ils ont fait 90%. En général, les Kinshasa, Bukavu, Uvira, on a fait 90% de réussite à l'examen TENAFEP. Au fur et à mesure qu'ils écoutent les émissions à la radio, ils s'adaptent bien et voilà les résultats qu'ils ont obtenus.
Dans le cadre de ces programmes, un kit complet comprenant un appareil radio, le CD des enseignements déjà enregistrés et autres matériels didactiques sont remis à l'enseignant. Celui-ci assiste les apprenants pendant l'audition dans une salle de classe et peut même reprendre plusieurs fois la matière avec des exercices pratiques. Un processus qui n'est pas aisé, surtout pour la plupart de ces enfants issus des familles vulnérables. Madame Solange est enseignante au centre de rattrapage scolaire de Kilomoni à Uvira.
Milenge Nyota Solange, éducatrice du niveau 2 au CRS Kilomoni. Chez moi, j'ai commencé avec 56, j'ai terminé avec 43 et 13 abandons. Nous avons un peu de difficultés pour certaines et les autres, nous sommes déjà habitués. Au début, c'était difficile. Il y a certains parents qui n'aiment pas que leur enfant étudie. Les filles, ils sont seulement toujours à la maison en train de faire des travaux ménagers. Alors, aller cultiver le champ, ils privilègent seulement les garçons. Alors, notre programme est là pour sensibiliser les filles et mères, les enfants abandonnés, les orphelins, les enfants qui n'ont pas trouver le moyen de continuer les études. Je demande à vos parents qu'ils nous envoient des enfants.
Au cours des cérémonies de clôture de ces programmes, la chef des services des affaires sociales d'Ouvira Ville et Territoire, Madame Dorcas Ndamousso, a rassuré que le gouvernement congolais pourrait poursuivre le programme vu son importance dans ce contexte de coronavirus. Madame Dorcas Ndamousso lance l'appel à d'autres partenaires internationaux de prendre la relève de l'année scolaire 2021-2022.
Nous sommes dans la démarche au niveau de la fonction publique nationale. On a déjà écrit des demandes pour voir comment est-ce que ça peut se faire. Le gouvernement aussi est en train de se forcer pour voir comment est-ce que nous pouvons faire pour ces éducateurs. Si ces éducateurs peuvent avoir leur numéro matricule, ça pourrait leur garantir demain après demain. Et quand on commencera à toucher l'argent, leur salaire, et à chaque fin du mois, on aura vraiment mieux équipé par ces éducateurs. Parce que la crainte que nous avons, si on ne peut pas avoir une autre organisation qui va nous appuyer, peut-être ces éducateurs peuvent se décourager et rester à la maison. Et c'est une fois qu'ils restent à la maison, nos enfants, les enfants que nous sommes tentés d'instruire, ce sera le Congo de demain. C'est pour cette raison qu'il faut que ces enfants soient préparés et ils seront préparés par les éducateurs.
Signalons que ce projet de World Child Canada touche à sa fin au moment où le besoin est encore énorme dans le milieu rural d'Ouvira, Fizi et Mwenga. Des milieux confrontés souvent et encore aux affres de la guerre. D'Ouvira Fiston Ngouma Mayaba, la radio Kapi.
Notez que ce programme a été financé par l'organisation Affaires mondiales canadiennes. Le ministère national des Affaires sociales devrait prendre la relève dans la prise en charge de tous les 10 centres de rattrapage scolaire laissés par le projet. À Butembo, au Nord Kivu, la prison centrale de Kakwangura manque de nourriture pour ses détenus. C'est l'aumônier de cette maison carcérale qui l'annonce. Pasteur Justin Kagoma fait savoir que le stock fourni par le gouvernement provincial est épuisé depuis la semaine dernière. Il explique les difficultés que connaissent actuellement les détenus pour s'alimenter.
Les gens sont là, ils sont vraiment affamés et même les autres tombent malades à cause du manquer, même la nourriture, vraiment ils souffrent. Et la nourriture que le temps a mené est finie, c'était le jeudi, il n'y a pas à manger et d'autres risquent de perdre même l'envie à cause de manquer la nourriture. Aujourd'hui, il y a plus d'un 760 prisonniers. Les églises nous aident vraiment dans notre prison de Kakwangura. Mais ça ne suffit pas. Si l'église adventiste peut venir le vendredi, d'autres le dimanche, le lundi, on peut vraiment clôturer avec la semaine. Et on peut même trouver quelque chose à donner aux prisonniers comme nourriture. C'est pour cela que nous invitons quiconque qui peut vraiment aider ces prisonniers de nous venir en aide.
Le directeur de la prison, Aubin Kaindo Louavo, confirme les informations de l'aumônier. Il appelle à une aide urgente du gouvernement et des partenaires. Des étudiants membres de l'église adventiste du septième jour ont nettoyé les cellules de cette prison. D'après Samuel Kikongo, vice-président de ce club, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la réponse à l'appel du maire qui a demandé d'exécuter des travaux communautaires chaque vendredi pour l'assainissement de la ville. On l'écoute.
Les cellules sont surpeuplées. Alors, on libérait une cellule, on mettait les détenus dans l'encart et puis on nettoie correctement avec l'eau savonneuse la cellule et puis après on pulvérise avec le chlore pour essayer de décontaminer. Nous avons été motivés par le message du maire qui nous a dit que chaque vendredi nous devons chaque fois faire le travail communautaire qu'on appelle Salongo. Et nous, étudiants adventistes en ville de Butembo qui étudient dans les institutions non adventistes, nous avons choisi d'effectuer ce travail dans la prison centrale. En fait, nous avons eu un constat selon lequel les prisonniers vivent dans un endroit qui n'est pas salubre. Ils sont d'abord entassés. S'il y a des maladies transmissibles, ils peuvent se les transmettre. Nous avons été appuyés par la division provinciale de la santé et la zone de santé de Butembo qui nous ont fourni des bottes, des taïvec pour nous couvrir, mais aussi des masques, les écrans faciaux et les gants pour que nous-mêmes, nous ne puissions pas nous contaminer. Le message que je vais passer à la population, c'est que ils font passer à aider les prisonniers parce qu'ils souffrent.
Ce dossier a été réalisé par Florida Kahambu.
Actualité internationale.
En Guinée, le leader de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, a prêté serment comme président de la transition. À cette occasion, il s'est engagé à ne pas être candidat à des futures élections. Pénurie de carburant au Royaume-Uni, l'armée déployée dès lundi, annonce le gouvernement britannique. Environ 200 militaires seront déployés dès lundi 4 octobre au Royaume-Uni pour assurer la livraison de carburant dans les stations-service affectées par des pénuries en raison du manque de chauffeurs routiers et des achats des paniques, annoncé vendredi le gouvernement.
L'invité.
Au Congo central, la situation économique de la ville portuaire de Boma ne cesse de se dégrader. Cette deuxième ville du Congo central s'évite de ses entreprises et même de ses opérateurs économiques. Tous migrent vers Matadi ou Kinshasa. Les activités au port tournent au ralenti. Cette situation a engendré une pauvreté qui ne dit pas son nom dans la ville avec de graves répercussions sur le social des habitants. Comment remédier à cette crise? Le coordonnateur de la société civile de Boma, Apollinaire Nzokangimbi, propose quelques pistes de solutions. Il s'entretient avec Nana Plurich-Bombo.
Monsieur Apollinaire Ngimbi Nsoka, bonjour.
Bonjour.
Quel est l'état de santé actuel de l'économie de la ville de Boma?
Oui, au fait, la santé économique de la ville n'est pas bonne. D'abord, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment et en conséquence, il y a création de chômage dans la ville. Ça, c'est de un. De deux, Boma est une ville portière. Et durant le temps, nous avons constaté une baisse très sensible des activités portières dans la ville de Boma. Et cette baisse sensible a comme conséquence, les jeunes gens qui font les déclarants ont émigré vers Matadi. Ils sont tous presque partis, à tel point qu'il n'y a presque rien dans notre ville. Et par mois, nous pouvons voir un bateau ou deux bateaux venir ici. Mais il y a aussi un problème sérieux. C'est quoi? C'est que, vous savez, la ville de Boma a aussi des grandes entreprises, mais qui ne payent pas. Et souvent, ce sont ces entreprises publiques qui ont été amendées ou aménagées, devenir des entreprises privées ou devenir des sociétés par action à responsabilité limitée. Par exemple, vous avez la CVM, Congolaise des Voies Maritimes, vous avez l'ex-ONATRA. Ces entreprises regorgent beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de travailleurs. Je donne le cas de la CVM, qui a 32 mois d'impayement. Et comme conséquence, comme le salaire n'est pas payé dans la ville, donc l'argent ne circule pas aussi dans la ville, il y a une pauvreté monétaire dans la ville qui conduit à la pauvreté de la vie. Et ce qui fait que les affaires ne tournent pas.
Comment est-ce que cette situation impacte sur le social des habitants de Boma?
Sur le social, c'est quoi? Il y a eu une montée des criminalités dans la ville. Et puis, il y a eu une baisse sensible du niveau d'éducation aussi. Mais aussi, la question de sécurité sociale se pose. Vous savez, le salaire a aussi un effet social chez nous. Et quand on n'est pas payé, on ne sait pas investir pour sa vieillesse. De la sécurité sociale est dérangée. Et là, qu'est-ce que nous avons constaté? Beaucoup de nos parents qui ont eu leur retraite n'ont pas vraiment survécu. Ils sont morts parce que la retraite les a menés dans l'incertitude. Et nous avons aussi constaté que beaucoup de nos frères qui ont perdu l'emploi, par exemple à la Bralima, et ainsi de suite, n'ont pas vraiment survécu comme il se doit. Au niveau culturel, nous perdons aussi les valeurs parce que nous devenons pauvres. Il n'y a plus de vertu. Et ça, on le constate dans le comportement des jeunes garçons, de la jeune fille, dans le comportement de la femme, dans le comportement de l'homme. On le constate que la question de la dignité n'est plus une question à prendre en considération.
Quel secteur le gouvernement peut toucher pour essayer de remonter la pente?
Oui, le secteur que l'État peut toucher pour essayer de remonter la pente. Il faut à tout prix, dans un bref délai, redonner la valeur au port. Parce qu'avec les activités portières, il y a des effets collatéraux à tous les niveaux, au niveau hôtelier, au niveau des restaurants, des activités génératrices des recettes. Je dois vous dire, madame, et toutes les femmes-là qui faisaient les omelettes le long de la grande route de la ville n'existent plus. Ils sont tous partis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus un preneur des omelettes. Il faut voir aussi comment relancer les industries qui ont existé. Les cas de Bralima. S'il faut négocier, il faut donner de l'intérêt pour que nous puissions avoir au moins une industrie dans la zone. Les autres entreprises fermées qui ont des conséquences avec le port, quand on relance le port, ces entreprises-là vont venir. À long terme, la ville doit se doter d'un plan de développement. La ville de Boma n'a pas un plan de développement local. Et dans ce plan de développement, les Bomatraciens auront réfléchi sur ce que va être la ville dans 5 ans ou dans 10 ans. Et à ce moment-là, certains secteurs déclencheurs de l'activité économique vont être répertoriés. Et c'est dans ces secteurs qu'on va pomper les moyens financiers avec les systèmes bancaires et les opérateurs économiques qui sont dans la ville.
Pensez-vous que pour relancer les activités portuaires dans la ville de Boma, il faut nécessairement fermer les ports privés?
Fermer les ports privés, ce n'est pas ça la solution pour relancer. Mais je crois qu'il faut prendre quelques mesures qui font que tous les ports puissent respirer. Et aussi, il faut que l'État aide aux ports de Boma d'avoir des infrastructures nécessaires. Vous pouvez comprendre qu'on a encore des grilles qui ont existé quand moi j'avais 5 ans. Avec ces grilles-là ne peuvent pas faire le travail qu'il faut. Il faut éviter que les navires puissent faire plus de 5 jours au port. Mais ici, vous avez les navires qui font même une semaine parce qu'il n'y a pas l'outillage qu'il faut pour vider les navires à un bref délai. Il faut rendre le port de Boma compétitif.
Monsieur Apollinaire Sokangimbi, merci.
Merci.
Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.